Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.
Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Bogerberg. Chers amis, bonsoir. Avant d'évoquer le 80e anniversaire jour pour jour de l'exécution des héroïques combattants de l'affiche rouge le 21 février 1944 au Mont-Valérien, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors tout d'abord, en mémoire du sacrifice de ces combattants de l'affiche rouge et dans le cadre de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, son épouse Mélinée et tous ses compagnons, fusillés au Mont-Valérien, encore une fois le 21 février 1944, la mairie du 11e organise une journée d'hommage à partir de 9h30 avec la participation de Hervé Deguin, qui reviendra sur le rôle central de la rue des immeubles industriels dans la dynamique de la résistance, et ce, le 17 février prochain, en la salle des fêtes, suivi l'après-midi d'une visite privée de la rue. Ça a donc été fait. Je voulais signaler que cette présentation par Hervé Deguin, qui a vraiment fait un très beau livre, eh bien, valait la peine, effectivement, de revenir sur le rôle central de la rue des immeubles industriels. Par ailleurs, alors là, c'est pour bientôt, c'est-à-dire à la fin de la semaine, à l'appel de la municipalité du 11e, de Serge Klarsfeld et des fils et filles des déportés juifs de France, se tiendra l'hommage traditionnel rendu à ces résistants, donc le 25 février à 11h, square Marcel Reymann, dans le 11e. Et je donne le numéro de la rue, il s'agit du square qui se trouve 15 rue Merlin. Un hommage donc sera rendu à Marcel Reymann et ses camarades de l'affiche rouge. Le dimanche 3 mars, au mémorial de la Shoah, sera projeté en avant-première, à 14h, le film « À la rencontre de mon père » d'Edmond Richemont et Simon Mahler, en présence de Judith Bénichou d'Anna, Bertrand Klein et évidemment des réalisateurs. Le 7 mars prochain, à midi, au mémorial de la Shoah, se tiendra la cérémonie de lecture des noms des déportés juifs de France du convoi 69, parti pour Auschwitz le 7 mars 1944, il y a 80 ans. Et lors de ce 80e anniversaire, Serge Klarsfeld évoquera les circonstances historiques de ce convoi avant la lecture des noms, qui sera suivie d'un kaddish final. Pour tout renseignement et inscription, pour participer à cette lecture, joindre Wendy Chando au 01 53 01 17 99. Enfin, sachez que du 18 au 20 mai, au mémorial de la Shoah, se tiendra la 3e édition du Forum Génération de la Shoah 2024, qui donnera l'occasion de rencontrer les représentants de plus de 60 associations et de partager des moments conviviaux mêlant culture, musique, tradition juive, avec de nombreux invités. Les ateliers du forum seront des moments de témoignage et de débat autour des thèmes comme reconstruire son histoire, les voies de la transmission ou encore agir aujourd'hui. Le forum réunit les survivants de la Shoah, les enfants cachés, les combattants juifs et tous leurs descendants, les associations pour la mémoire bien sûr, et pour la mémoire combattante, les Justes de France et leurs descendants. Pour toute information, donc on peut cliquer forumgeneration@memorialdelashoah.org ou encore un numéro de téléphone 01 42 77 44 72. Voilà, je reviens à ce qui nous occupe aujourd'hui. Il y a donc 80 ans, jour pour jour, Missak Manouchian ainsi que Marcel Reymann et leurs compagnons de combat, parmi lesquels 12 juifs, au visage à jamais gravé sur la fameuse affiche rouge, tombèrent sous les balles allemandes au Mont-Valérien le 21 février 1944, ce dont témoignent les photos désormais historiques récupérées par Serge Klarsfeld. Précédées par une propagande ignominieuse, on va le voir, dans le but de diaboliser ces combattants juifs, aux yeux de l'opinion, leur procès, qui s'est déroulé le 17 février à l'hôtel Continental, suivi de leur exécution 4 jours plus tard, le 21 février, dans la clairière du Mont Valérien. Alors, la seule femme du groupe, il faudrait la citer, Olga Banchik, elle fut décapitée le 10 mai 1944 dans la prison de Stuttgart. Et les parents de Marcel Reimann furent déportés et assassinés à Auschwitz. Quant à Simon, son frère, le frère aîné, il échappa à un destin fatal en revenant, lui, de déportation. Et les Reimann, comme la plupart de ces mansions, habitaient dans le 11e, surtout ceux appartenant au 2e détachement des FDP-MOI. Leurs actions sont restées en regard de l'histoire comme le paradigme héroïque de la lutte armée contre l'armée du Reich, à l'instar de Marcel Reimann qui fit feu sur le général Julius Ritter en septembre 1943. Aussi, filé méthodiquement par les brigades spéciales, ce détachement fut décimé avant que ne s'ouvre le procès. Alors je voudrais rappeler que depuis 1981, soit plus de 4 décennies, je couvre bénévolement la cérémonie d'hommage en faveur de ces hommes au square Marcel Reimann pour le journal Actualité juive. Et cette même cérémonie est relayée dans mon émission, Mémoire et Vigilance, depuis également 1981, avec le concours des survivants FTP-MOI, ce dont témoignent les enregistrements dont j'ai fait don au Mémorial de la Shoah, comme le précise le flyer récemment publié par le Mémorial, où sont répertoriées ces mêmes émissions. Il en est de même pour la cérémonie rendant hommage aux fusillés des 70 résistants opposants otages qui tombèrent le 15 décembre 1941 au Mont Valérien et pour lesquels nous avons été fidèles à leur mémoire à l'appel des Klarsfeld, des fils et filles des déportés juifs de France, ainsi que l'AMILAR, la Fédération des sociétés juives de France, le Farbant et les organisations de déportés dont je rencontre chaque année depuis plus de 4 décennies. Lors de ces cérémonies, je ne peux oublier que le grand rabbin de Paris, Alain Goldman, de mémoire bénie, assumait les prières d'usage et que le seul lycée qui participait à cette cérémonie, le lycée juif de Pavillon-sous-Bois, et ses élèves accompagnés de leurs professeurs, déposaient une rose au pied de la clairière. Comment oublier, je le dis avec beaucoup d'émotion, comment oublier notre ami Léon de Sévéry, résistant FTP, membre de la compagnie Marcel Reimann, en charge du protocole. Comment oublier qu'avec Serge Klarsfeld, après une très très longue recherche, ils ont établi que ce n'étaient pas 4500 patriotes qui avaient été fusillés dans la clairière du Mont Valérien, comme l'indique toujours la stèle, mais 1007, parmi lesquels on recense plus de 174 juifs. Ce combat, autant au nom de la vérité historique, les honore. Et chaque année, durant plus de 4 décennies, comme nous le faisons encore aujourd'hui, les noms de ces hommes tombés au Mont Valérien sont lus un à un afin qu'ils ne sombrent pas dans l'oubli. S'agissant des compagnons de Missak Manouchian et de Marcel Reimann, qu'il me soit permis de reprendre l'ouvrage de Serge Klarsfeld et Léon de Sévéry afin de rappeler leurs noms, eux qui ont sacrifié leur vie pour que nous soyons libres et qui font leur entrée ce soir au Panthéon, l'un dans son catafalque accompagné de son épouse Mélinée et les autres inscrits en lettres d'or sur une stèle. Voici leurs noms, dont la sonorité, je le dis haut et clair, habite cette émission depuis sa création, eu égard à leur engagement, leur sacrifice et leur héroïsme. Alors je reprends exactement le rituel tel qu'il se faisait pendant des années au Mont Valérien, sous l'autorité de nos amis donc Léon de Sévéry, de mémoire bénie, et également de Benjamin Aschenheim. Donc on lisait la liste de ces hommes qui sont tombés, et c'est ce que je voudrais faire ce soir, la liste de ces hommes qui sont tombés, donc encore une fois, le 21 février 1944, dans la clairière du Mont Valérien. Je voudrais rappeler leurs noms. Donc, Geoffroy, Georges-Henri, étudiant, 19 ans. Le Cornec, Pierre-Léon, étudiant, 19 ans. Salane, Yves Bernard, étudiant, 19 ans. Fontaneau, Spartaco, ajusteur, 22 ans. Manouchian, Mizac, tourneur, 38 ans. Rouxel, Roger Joseph, 19 ans. Useglio, Polatera, Amédée, terrassier, 33 ans. Vichis, Robert, télégraphiste, 20 ans. Cloarec, Georges Fernand, manœuvre, 21 ans. Della Negra, Primo Rino, ouvrier, chaussonve, 21 ans. Lucarni, César Cimentier, 22 ans. Salvadori, Antoine Antonio, plongeur, 24 ans. Alfonso, Celestino, menuisier, 28 ans. Boscor, Wolf, Joseph, menuisier, 39 ans. Glass, Emmerich, ajusteur, 42 ans. Reimann, Marcel, tricoteur, 21 ans. Thomas Elec, étudiant, 20 ans. Fingerschweig, Moshe, tapissier, 22 ans. Gedulgit, Martinuk, Jonas, étudiant, 26 ans. Wolf, Vachbrot, mécanicien, 19 ans. Goldberg, Léon, étudiant, 20 ans. Manoukian, Lavititian, Arménac, 46 ans. Shapiro, Willy, fourreur, 34 ans. Grichois, Schlama, 35 ans. Et Goubaski, Stanislas, Bûcheron, 36 ans. Et qu'il me soit permis, en guise d'hommage à ces hommes tombés le 21 février 1944, donner la parole aux acteurs de l'époque. Ainsi, Adam Reiski, qui fut durant l'occupation responsable national de la section juive du Parti communiste français, déclarait dans son ouvrage « Nos illusions perdues » publié chez Balland, en parlant du groupe Manouchian, écoutez bien, ce groupe n'a jamais porté devant la résistance le nom de Manouchian, qui n'était connu que sous son pseudonyme. Les premiers qui parlent du groupe Manouchian sont les services de la propagande allemande en février 1944, au moment du procès. Quant à Jacques Ravine, résistant FTP, auteur de la résistance organisée des Juifs en France, 1940-1944, publié chez Julliard en 1973, il revient sur le procès. Je vous propose de l'entendre, et c'est à la page 216, au chapitre « Le procès des 23 », à ma connaissance, son témoignage est le plus circonstancié que je connaisse, et je me permets de reprendre ce qu'il dit à propos du procès des 23. Parce que tout est dit, je dirais, dans le contexte de l'époque. Voilà ce qu'il dit. Le 17 février 1944, à l'Hôtel Continental à Paris, le président du tribunal militaire allemand ouvrait en grande pompe, en présence de la presse française et étrangère ainsi que de la radio, un procès contre 23 partisans désignés comme terroristes. Contrairement au désir de ses organisateurs, ce procès marqua une page sublime dans l'histoire de la résistance française, une page à la gloire des immigrés et particulièrement des immigrés juifs de l'Europe orientale. Habituellement, les terroristes étaient massacrés dans des caves de la Gestapo ou exécutés après un simulacre de procès où les tortionnaires se déguisaient en juges. Un avis donnait ensuite le nom des exécutés afin de semer la terreur parmi la population. Pourquoi cette pompe et cette publicité autour du procès des 23 ? Parce que les autorités d'occupation croyaient pouvoir exploiter ce procès pour compromettre le mouvement de la résistance française. Depuis l'automne 1943, les dirigeants de l'état-major nazi et de la Gestapo de Paris, préoccupés de trouver un moyen de freiner le combat des résistants, avaient conçu un plan qui, selon eux, devait porter un coup à la résistance française. Il consistait dans l'organisation d'un grand procès contre les partisans immigrés et juifs arrêtés. Avec le concours de leur appareil de propagande, ils comptaient présenter la résistance comme un ramassis de terroristes, assassins, bandits, juifs, métèques et immigrés soudoyés qui n'avaient rien de commun avec la France. Ainsi, ils voulaient se servir de la xénophobie, arme éprouvée de la réaction au cours des périodes difficiles pour détourner le mécontentement du peuple contre les étrangers. Pour cette raison, parmi des centaines de patriotes arrêtés, dont la majorité était français, ils choisirent 23 partisans immigrés pour le procès à l'hôtel Continental. Voici quelle était la composition des 23, et je la donne comme l'écrit donc Jacques Ravine. 5 Italiens, Spartaco Fontano, Antonio Savadori, César Lucarini, Rino della Negra, Amadeo Uzeilio, 2 Arméniens, Misak Manouchian, poète et rédacteur du journal arménien, et Armenek Manouchian, 1 Espagnol, le jeune Celestino Alfonso, 1 Polonais, Stanislas Kubaski, ancien combattant des brigades internationales en Espagne, et 12 Juifs, il faut les citer, Joseph Bosco, Rayman, Marcel, Emery Glass, Thomas Selleck, tous les trois nés en Hongrie, Joseph Bosco, Emery Glass et Thomas Selleck, tous trois nés en Hongrie, Marcel Rayman, Slama Grivac, Willy Shapiro, Maurice Fingerschwein, Wolf Weisbrot, Léon Goldberg et Jonas Gedutlik, ce dernier figurait au procès sous le nom de Michel Martignac, tous nés en Pologne, Olga Banchik, la seule femme du procès née en Bessarabie, Wittschitz, fils d'un juif émigré de Pologne, tous étaient membres des unités de partisans qui formaient le bataillon parisien des FTP-MOI. La plupart des juifs appartenaient à l'unité juive du bataillon. La Gestapo trouva nécessaire, sans doute pour souligner la disproportion criante, d'adjoindre aux 21 immigrés cités 2 Français. Ce furent les partisans Roger Rouxel et Georges Cloarec. Écoutez bien, pendant 3 mois, c'est-à-dire durant 90 jours et 90 nuits, ces hommes furent torturés par la Gestapo. Mais aucun supplice ne put leur arracher autre chose que ce que la Gestapo savait déjà sur leur participation à de nombreuses actions et attentats par son service d'indicateur. Simultanément, la presse de Vichy et la radio nazie en France, en français, orchestrèrent une campagne de pogrom contre les terroristes juifs et immigrés, responsables de la mort des otages français et des malheurs de la France. Les murs de tout le pays furent couverts, comme vous le savez, d'une affiche rouge qui représentait les terroristes passibles du tribunal. L'affiche rouge, qui inspira à Aragon son célèbre poème, présente dans sa partie supérieure les visages de 10 partisans, les traces de 3 mois de torture, n'arrivaient pas à effacer l'expression de fierté dans leurs yeux. Et Jacques Ravine nous donne le nom des partisans figurant sur l'affiche et bien sûr les légendes qui accompagnent la photo de chacun d'eux avec le nombre d'attentats qu'ils ont commis contre le molosse nazi. Et il faut savoir que sous les photographies, des terroristes figurent à côté d'images de catastrophes ferroviaires et d'un arsenal d'armes des partisans, des corps criblés de balles, les victimes soi-disant des terroristes. Le texte ne comporte que quelques mots en haut, délibérateur, point d'interrogation, et en bas, la libération par l'armée du crime. La même affiche, accompagnée d'un texte abject, édité sous forme d'un tract, fut distribuée en des millions d'exemplaires par les autorités de Vichy et les organisations fascistes dans tout le pays, jusqu'aux villages les plus perdus. Devant le tribunal, composé d'officiers allemands, assis en demi-cercle autour d'une table, sous la garde d'une section de soldats mitraillettes au poing, placés le long des murs, les 23 terroristes furent conduits, certains enchaînés par 2, d'autres seuls, les mains entravées derrière le dos. Parmi ces derniers se trouvait l'étudiante juive Olga Banchik. La presse donna le lendemain une photo des combattants enchaînés, l'heure de leur entrée dans la salle du tribunal. Le président du tribunal, un colonel nazi, cita la liste des attentats commis par chacun des inculpés, l'accusa de crime et demanda ce qu'il avait à dire pour sa défense. Aucun d'eux ne chercha à renier son rôle dans le combat anti-nazi pour sauver sa tête. Tous, je dis bien tous, se présentèrent devant les juges hitlériens comme de fiers combattants. Dans certains cas, les inculpés trouvaient nécessaire de préciser quelques détails qui suscitaient la fureur des juges nazis. Lorsque Spartaco, par exemple, eut déclaré « J'ai tiré 3 balles par la fenêtre du véhicule plombé. » Von Ritter, blessé, s'est enfui par la porte d'en face. Reimann, à ce moment-là, l'interrompit et ajouta fièrement « C'est alors que je sortis mon revolver et achevai le docteur Von Ritter. » À l'accusation de crime, les combattants répondirent respectivement qu'ils avaient accompli leur devoir de patriotes, d'ouvriers conscients, d'antifascistes et de juifs. Marcel Reimann déclara « Je me considère comme un soldat. C'était pour moi une question de vie ou de mort. Je n'ai pas vu d'autre solution que de mener la lutte contre l'occupant. » Witschitz dit que plutôt que de travailler pour les Allemands avec le STO, il avait choisi la lutte contre les nazis dans les rangs des FTP. Léon Goldberg, Willy Shapiro, Weisbrot, Fingerschwein, Gedulglick proclamèrent chacun à leur manière qu'ils avaient accompli leur devoir en tant que juifs et ouvriers en vengeant leurs frères persécutés et massacrés. Prenant la dernière fois la parole avant le verdict, les combattants réaffirmèrent avec force leur conviction qu'ils avaient lutté pour la liberté, la justice contre la barbarie et que la libération de la France était proche. Manouchian et Bosco prédirent aux juges que leur fin n'était pas loin. Le tribunal nazi condamna ses partisans à mort. Le 21 février 1944, tous tombèrent à l'exception d'Olga Banchik sous les balles du peloton d'exécution allemand au Mont Valérien. Olga Banchik, mère d'un enfant en bas âge, fut elle traînée de prison en prison sous prétexte de supplément d'instruction. Finalement, après avoir subi de nouveaux supplices, elle fut condamnée à mort pour la seconde fois à Stuttgart et guillotinée dans la cour de la prison le 10 mai 1944, écoutez bien, le jour de son 32e anniversaire. La triste expérience de plus de 3 ans et demi d'occupation avait appris au peuple français à distinguer les étrangers qui occupaient son pays, le pillaient et le ruinaient, assassinaient ses enfants et en gardait 1,5 million derrière les fils barbelés des stalags, des étrangers qui se battaient aux côtés des patriotes français pour la délivrance de la patrie. Si presque tous les Français étaient au courant du traitement barbare que l'occupant infligeait aux Juifs, peu d'entre eux, en revanche, étaient au courant de leur participation massive à la résistance et de leur lutte dans les rangs des FTP. Le procès des 23 à l'hôtel Continental. Les figures ravagées de Fingerschwein, Witschitz, Weisbrot, Eleg, Rivatch, Boschkoff et Reimann sur l'affiche rouge firent comprendre à 10 millions de Français que les Juifs n'étaient pas que des martyrs, mais des combattants vengeant leurs frères persécutés et aussi des patriotes défendant leur pays d'adoption. Tout au long de leur histoire, pendant la Grande Révolution française, pendant la Commune de Paris, durant la Première Guerre mondiale et lorsque éclata la Deuxième, les Français avaient toujours trouvé, pour lutter à leur côté, des dizaines de milliers de volontaires ressortissants de différents pays. Le procès des 23 fut, pour le peuple français, une nouvelle illustration de la solidarité des peuples dans sa lutte pour l'indépendance et la liberté. Et il faut savoir que sur les affiches rouges, on trouva des inscriptions à la main, nos libérateurs, dessous, des monceaux de fleurs, le jour du procès et après les exécutions, des milliers de Français défilèrent silencieusement devant les affiches pour rendre hommage aux condamnés. De nombreux croyants, hommes et femmes, s'arrêtèrent un instant devant elles pour se signer une prière muette sur les lèvres. Certains conservèrent les tracts rouges comme des reliques et toute la résistance flétrie dans des éditions spéciales, la basse diversion de l'occupant, condamnant le crime et appelant les Français, les étrangers, les Juifs, les catholiques, les protestants à fraterniser dans la lutte commune pour la liberté. Et poursuit Jacques Ravine, il dit « Chaque année, depuis les 23, sont commémorés par la résistance française comme symbole de la fraternisation des peuples et le Conseil de Paris, dit-il, perpétua leur souvenir en donnant à une rue de la capitale le nom du groupe Manouchian. » Et ce soir, il faut le dire, c'est un événement donc important de savoir qu'ils ont la reconnaissance de la République française en entrant au Panthéon. Maintenant, je voudrais poursuivre, et je ne voudrais pas occulter celui que nous avons bien connu, qui était près de nous, les fils et filles des déportés juifs de France. Je voudrais rappeler son nom, c'était Boris Holban, qui était donc le responsable, le chef militaire des FTP de Paris. Et je voudrais reprendre les extraits de son témoignage qui figure dans son ouvrage, qui s'appelle « Le Testament », publié chez Kahneman Levy. Et donc, après avoir dit dans cet ouvrage son désaccord avec les responsables politiques du parti, il fut démis de ses fonctions durant quelques mois et justement remplacé à ce moment-là par Missak Manouchian. Et je voudrais prendre ce passage qui me semble très très important. Ça se passe donc à la page 185, où en réalité ce chapitre est intitulé « La grande chute de novembre 1943 », où en fait Boris Holban explique comment en fait tous ces résistants sont tombés dans les griffes de la Gestapo. Et surtout, des brigades spéciales, bien sûr. Alors voilà, ça s'intitule « La grande chute de novembre 1943 » et je lui laisse la parole. Il dit « L'affaire Davidovitch, sa disparition, sa pseudo-évasion, son interrogatoire est au cœur d'une affaire beaucoup plus large que nous avons appelée la grande chute, un vaste coup de filet policier qui, en novembre 1943, a quasiment détruit la formation FTP MOI des MOI à Paris. Cette chute fut certainement le coup le plus dur que la police ait jamais porté au FTP MOI parisien, tant par le nombre des arrestations que par la valeur de ceux qui ont été touchés. Le quatrième détachement, indemne jusque-là, a été complètement anéanti, tout comme l'équipe spéciale qui s'était distinguée par ses actions en plein jour contre des personnalités de la hiérarchie militaire et administrative allemande. Notre dépôt d'armes et de munitions a été découvert et sa responsable, Olga Manchik, arrêtée. La catastrophe n'a pas épargné non plus le troisième détachement démantelé à son tour. Comment, dit-il, la police a-t-elle réussi à porter un tel coup à une formation de lutte si fortement centralisée et cloisonnée? Comment des combattants aguerris et intouchables jusque-là, comme Boskor, Reimann, Alfonso et d'autres, ont-ils été arrêtés sans avoir eu la possibilité de se défendre, eux qui ne se séparaient pratiquement pas de leurs armes? Comment les chefs mêmes, Manouchian, alors responsable militaire des FTP MOI parisiens, et Epstein, son supérieur hiérarchique du comité militaire interrelationnel, interrégional, ont-ils pu se faire arrêter, armés, lors d'un de leurs rendez-vous? Autant de questions auxquelles la direction MOI devait trouver des réponses sous peine de voir l'organisation entièrement dévastée. Il fallait analyser les rouages qui avaient permis à la police de procéder à temps d'arrestation, tirer les leçons de la chute et éviter qu'elle n'aille jusqu'à toucher la direction des FTP et du parti. Ensuite, évidemment, Boris Auban s'explique d'une manière assez dense sur donc ce qui explique cette chute. Et il y a un passage où je crois qu'il faut le mentionner également, parce qu'il rend justice aussi au colonel Gilles, qui était donc Epstein, et il dit « le colonel Gilles, héros méconnu », et il poursuit « en réalité, il n'y eut non pas 67, mais 78 arrestations. » Et dit-il, le nom du 68e, son implication dans l'affaire des 23 en tant que chef et responsable militaire du comité militaire interrégional ont été complètement occultés. C'est ça sa réparation en justice, hein, je le précise de Boris Auban. Il dit, c'est en qualité donc de responsable militaire qu'il a rencontré Manouchian le 16 novembre à Ivry-Petitbourg, où ils furent arrêtés tous les deux. Avec l'aide de Davidovitch, la police a appris aussitôt les attributions de Joseph Epstein. On peut se demander pourquoi son nom n'est mentionné nulle part et pourquoi il n'a pas été jugé avec ceux qu'il dirigeait. C'est une vraie bonne question. Au lieu de figurer dans le fameux procès des 23, il a été mêlé discrètement à un autre procès, condamné à mort et exécuté. Ni son arrestation, ni son exécution n'ont été annoncées par les Allemands. On a appris après la guerre seulement qu'il avait été fusillé le 11 avril 1944 au Mont-Valérien. Comment expliquer également le fait qu'il n'ait jamais été confronté avec ceux qui furent arrêtés avec lui? Comment expliquer ce silence si soigneusement observé par les autorités nazies à l'égard d'un militant qui était pourtant leur ennemi le plus dangereux? Arrêté à l'âge de 32 ans, Joseph Epstein avait déjà un long itinéraire de militant. Malgré les tortures subies, la police n'a pu lui arracher aucune déclaration, ni même son vrai nom. Il repose au cimetière d'Ivry sous son faux nom, Joseph Andrech. C'est l'un des motifs pour lesquels les autorités de l'époque n'ont mentionné le nom de Joseph Epstein ni à l'occasion du procès, ni dans leur rapport sur le bilan des arrestations. Il faut dire aussi que les Allemands préféraient certainement taire à l'opinion publique la présence d'un juif à la tête de la résistance armée dans la région parisienne. Mais si l'attitude des polices allemandes et françaises est compréhensible, il est en revanche troublant que longtemps après la guerre, les historiens et les médias relatant la lutte armée des FTP aient si timidement mentionné la part capitale prise à cette lutte par Joseph Epstein. En effet, sans Albert Ouzoulias, son existence et son rôle dans la résistance seraient restés ignorés. Et poursuit Boris Auban, tous les ans, on commémore à juste raison les exécutions des 23 de la fiche rouge. On parle de Manouchian, de Bossor, de Reimann, sans rappeler le nom de Joseph Epstein, qui pourtant a été leur chef et gît avec eux dans le même carré des fusillés. Et il poursuit, il faut également souligner ici la modestie des survivants de la famille Epstein. Sa veuve interviewée se contente de déclarer au cours de la tempête provoquée par le film de Moscou. Écoutez bien ce qu'elle dit. « Je n'ai évidemment pas accepté sa mort de gaieté de cœur, mais tant de gens se sont fait tuer à cette époque. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de mettre en cause qui que ce soit. J'ai éprouvé un grand plaisir à rencontrer Madame Paula Epstein. Elle vit modestement à Paris, sans prétendre à la Légion d'honneur ni à d'autres titres de reconnaissance pour ce qu'a fait son mari, aussi bien elle que son fils, respecte l'idéal pour lequel a lutté Joseph Epstein et qu'il a payé de sa vie sans toutefois refaire l'histoire. Et en fait, Boris Ulman poursuit donc ensuite avec l'analyse des causes qui explique donc la grande chute de ces résistants d'après les investigations qu'il a menées, évidemment en symbiose avec des historiens en particulier, Stéphane Courtois et d'autres. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une trahison. Il va y avoir une trahison. Et cette trahison, eh bien, va déboucher sur, je dirais, quelque chose qui n'est pas sans nous laisser un frisson. C'est que, en fait, celui qui a dénoncé le réseau va être jugé par ses camarades. Et puis, il faut le dire, il va être exécuté. Et je me souviens, pour avoir interrogé, évidemment, Boris Ulman, qui est venu à cette antenne, à plusieurs reprises, bien sûr, avec d'autres amis. Hein. Je voudrais citer Léon de Sévéry, Victor Ziegelman, Kojdiski Piver, Jean Lamberger et d'autres. Eh bien, Boris Ulman a eu ce mot à ce moment-là, quand je l'interrogeais, mais... est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui de repenser à ce geste qui avait été fait après le jugement de ce traître et que malheureusement vous avez été dans l'obligation, je dirais, de l'arracher à la vie simplement pour qu'il ne soit plus néfaste pour le reste des FTP. Boris Ulman a eu ce mot que je médite encore avec son petit accent roumain. Il m'a dit, mais monsieur, ce que nous avons fait, c'était une obligation parce que c'était la guerre. Alors, je me permets donc que l'on trouvera ce témoignage, bien sûr, dans les livres que j'ai cités. Bien sûr, Boris Ulman, le testament, après 45 ans de silence, le chef militaire des FTP, MOI de Paris, parle. Et bien sûr, l'ouvrage de Jacques Ravine, La résistance organisée des Juifs en France, 1940-1944, c'est publié chez Julliard. Et enfin, je me permets de signaler que l'on trouvera le témoignage de nombre de FTP MOI dans mes ouvrages, et en particulier le témoin et les témoins publiés par Serge Karsfeld et les fils et filles des déportés juifs de France, ainsi que les deux gros tomes coécrits avec Serge Karsfeld, Militer et témoigner, de même que le dernier en date, Le mémorial de nos militants disparus, 1977-2023. Je voudrais également rappeler qu'en 1990, j'organisais une table ronde en la synagogue Charles Liché en présence de Maurice Rajad, de Milo Adonner, de mémoire bénie, avec la participation de l'historien Stéphane Courtois et des survivants FTP et MOI, qui était donc à l'époque bien vivant. Donc cette table ronde a été filmée par les soins d'Adolphe Corman, de mémoire bénie. Il s'agit d'un document exceptionnel de portée historique. Chers amis, un grand merci pour votre écoute. À l'occasion de cet événement marquant de la République, nous pensons évidemment à l'instant à tous les résistants des FTP qui d'aventure seraient étonnés et honorés de voir qu'aujourd'hui, ils ont la reconnaissance suprême de notre pays. Merci. Chers amis, à mercredi prochain.
Mémoire et vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.